Bonjour, Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est une rediffusion aujourd'hui d'une émission L'Entonnoir sur l'enfermement et la question de l'autorité médicale. Un article tiré de Micrurus 2. Une émission donc du 15 janvier 2020. Radio Libertaire 89,4 MHz en modulation de fréquence, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et ben c'est L'Entonnoir, comme tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose au sommaire de cette émission, c'est un article issu de la revue Micrurus, volume 2, qui est paru dans les années 2016 ou quelque chose comme ça. Et dont le but est écrit sur sa couverture « Contre la médecine et son monde ». Alors, petite phrase pour introduire cette revue. La première que l'on trouve en ouvrant. Nous fûmes le collectif Médecine Libertaire. Ce collectif fut composé d'individus qui souhaitèrent penser et agir autour de la santé, de la médecine et du corps dans une perspective anarchiste. Pour nous, le système médical est l'un des relais des dominations de classe, de, entre guillemets, race et de genre. La question de la santé pose la question du rapport à la norme et à la normalité que nous voulons subvertir. Dans ce cadre, nous tentâmes de définir des bases théoriques communes pour à la fois penser et lutter contre les travers sinistres du système médical actuel. Ceci passa aussi par la mise en œuvre de pratiques collectives, libératrices et autonomes, afin de se réapproprier nos corps et nos vies. Et donc, c'était un collectif de Caen, en Normandie, dans le Calvados, qui était rédacteur de cette revue, donc un collectif. Et le texte que nous vous proposons aujourd'hui, c'est « L'enfermement et la question de l'autorité médicale » de Pierre et Cassandra. Cassandra étant non pas une seule personne, mais un collectif. Alors, il y a un avant-propos collectif suivi d'un court avant-propos de l'auteur avant eh bien, d'engager, de commencer donc le corps du texte. Avant-propos collectif. L'exercice du chapeau sur un texte est une œuvre quelque peu délicate, celui qui concerne le texte d'un compagnon faisant partie du collectif qui est à l'initiative de cette revue l'est d'autant plus. Mais au sein de ce collectif, comme au sein de tous les collectifs qui cherchent d'une manière ou d'une autre à se positionner contre le pouvoir, se trouvent des singularités que l'univers capitaliste ne supporte pas. Les administrations ne les admettent pas non plus. Tout comme les dogmatiques de tout poil ne supportent pas qu'il y ait la moindre divergence dans les idées et approches portées par plusieurs individus qui font partie d'un même ensemble. Nous ne sommes pas de celles et de ceux-là. Du moment que tout cela se déroule sous un air anti-autoritaire, nous avons toujours cherché à porter la possibilité effective à la différence, même la plus extrême. Et nous avons toujours tenté de la mettre en pratique dans la mesure de nos limites. Aussi, par souci de clarté, nous précisons que malgré la présence de ce chapeau, exprimant certaines réserves quant au texte, ce dernier est publié, car nous le considérons pertinent et intéressant à plus d'un titre. Ceci étant, son auteur a tenu à faire savoir ici même que, suite aux tensions qui ont découlé des discussions autour de son travail d'écriture, il n'a plus l'intention de réitérer cet exercice de publication. D'une manière générale, l'écriture ne doit pas être qu'entre les mains de quelques écrivains, écrivaines, dactylographes et autres secrétaires institutionnellement contraints ou contraintes par une forme et un fond abjects parce qu'hégémoniques. Il semble banal de rappeler qu'écrire, c'est en partie se mettre à nu, se dévoiler, et que cela était un exercice bien difficile. Nous avons été confrontés à mettre au travail ce genre d'exposition de soi qui, en plus, est passé par le rouleau compresseur de la critique. Or, une critique n'est pas un élément isolé. Elle s'accompagne d'une intention qu'il semble important d'analyser. Elle est portée par un ou une individu ou un groupe qui tient une position particulière à prendre en compte, tout comme celui ou celle qui la reçoit. Autrement dit, balancer à tout va, sans précaution ou sans faire attention à la temporalité, au rythme de l'individu, à l'espace, la critique peut parfois provoquer des ravages. Elle a un aspect constructif a priori, quand on la retire de tout contexte, mais ses effets peuvent être destructeurs quand sa formulation est franchement maladroite, ou quand là où le récepteur ou réceptrice est en position vulnérable. Et elle n'a pas forcément besoin d'être la marque déguisée d'une recherche de domination pour être interprétée comme une attaque. C'est un peu ce qui a été vécu au sein de notre collectif à travers ce texte et la construction même de cette revue. Les discussions autour de ce texte et de ses corrections successives nous ont demandé beaucoup de temps. Ce chapeau est aussi l'occasion d'exprimer comment il peut être difficile de mettre en pratique ce que tout le monde, parfois crânement, considère comme évident, laisser une place à celles et ceux qui ne l'ont jamais ou très peu eu. Même quand les conditions semblent réunies pour la libre expression de chacun et de chacune, celle-ci peut se voir bridée ou empêchée. En effet, d'autres choses se jouent, comme l'intériorisation des normes dominantes ou de se retrouver en position minoritaire. Mais ce chapeau est aussi là pour donner nos quelques doutes sur quelques points de fond qui ne sautent pas forcément aux yeux de tout le monde. Nous ne partageons pas tous et toutes les mêmes références et perceptions du monde qui nous entoure, qu'on se le dise. Les questions de forme, style, orthographe, etc., n'ont pas nécessité de grands débats entre nous. À partir du moment où le contenu est compréhensible, on s'en tamponne un peu qu'il y ait quelques phrases mal cadrées, quelques tournures pas très élégantes ou carrément bancales. La question du contenu, en revanche, nous a plus mobilisés. Vieux relents nationalistes, penseront les plus mystiques. Possible, toujours est-il que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que dans toutes les sociétés, entre guillemets, traditionnelles, le soin soit toujours, entre guillemets, inclusif. De la même manière que nous émettons un sérieux doute sur le fait que, autour des années 90, les mœurs sociales se resserraient autour de la religion, c'est ce qu'on trouvera dans le texte ci après. Aucun et aucune d'entre nous n'a vécu dans ces années-là, mais nous pensons que la séparation de l'Église et de l'État n'est pas intervenue en faveur d'un resserrement des mœurs autour du catholicisme, bien au contraire. Nous ne commenterons pas outre mesure le propos autour de la sexualité, mais nous ne sommes pas vraiment certains et certaines que la sexualité n'ait pas toujours été plus ou moins codifiée et encadrée de façon restrictive, comme on le trouve aussi dans le texte, cette expression-là. De là, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi son, entre guillemets, contrôle social serait véritablement né au XIXe siècle, puisque dès l'Antiquité, il semblerait qu'il ait existé des cadres et autres restrictions normées. Mais bon, c'est peut-être comme l'hystérie, qui est discutée plus loin dans le texte, l'hystérie dont la définition n'a jamais été véritablement donnée, est un concept d'une horreur incommensurable. Et malheureusement, sa disparition de la nosographie médicale n'a en rien empêché que son travail de discrimination sexiste continue encore d'agresser un grand nombre de personnes, à commencer bien sûr par les femmes. Néanmoins, si ce texte est dans cette revue, malgré certaines dissociations d'idées, c'est aussi parce que nous ne considérons pas le conformisme universel comme quelque chose de souhaitable. Nous sommes traversés par des mondes qui font et défont notre capacité et manière à ou de nous exprimer et accorder de l'attention à la multiplicité de ces formes et structures, devrait nous enrichir et nous renforcer pour mieux détruire un existant qu'on nous impose et qui ne cesse de détruire toute forme de vie. Ça, c'était l'à-propos, donc, l'avant-propos du collectif à l'origine de la rédaction du texte qui va suivre. Avant propos de l'auteur, donc l'auteur, on imagine qu'il a établi la structure même du texte. Alors l'auteur qui parle. Le texte ci-dessous ne correspond pas entièrement à la version souhaitée par l'auteur, ni à la vision du collectif seul. Ce texte est l'aboutissement d'un compromis suite à des divergences politiques. En découle une certaine lourdeur et un manque de fluidité. Alors c'est parti, il y a plusieurs sous-titres. 6, donc le rapport aux soins en Occident. Le soin perverti, naissance d'un rapport thérapeutique, l'injonction d'être normal. De l'expertise médicale à la dépossession de la santé. La question du soin imposé, dénaturation du médical en contrôle social. La question de l'enfermement, perversion de la notion de risque pour soi ou pour autrui. Questionnement politique sur le soin. Le rapport aux soins en Occident. L'objet du texte est le soin, la relation thérapeutique, l'enfermement et les paradoxes qui forment les contradictions tragiques de la médecine occidentale. Toutefois, même si nous connaissons toutes et tous le monde dans lequel nous survivons, et même si cela est, entre guillemets, sans remède, il n'est pas forcément inutile de replacer brièvement ce cadre qui étouffe nos vies. Dans nos sociétés, nous fréquentons de plus en plus les salles d'attente des médecins. Pourtant, nous ressentons notre santé comme étant de moins en moins bonne, et cela malgré une consommation de médicaments sans cesse accrue. Les consultations sont cadrées dans un espace-temps strictement défini. Le bureau séparant le normal du pathologique, le ou la patiente, le ou la cliente, dans certains cas même, du ou de la soignante ou soignant, dépositaire de l'expertise médicale. La relation se déroule selon une codification bien spécifique, une temporalité type de 525 secondes environ, partagée en deux ou trois phases. 5 à 10 minutes d'écoute, éventuellement 5 minutes d'examen, car dans certains cas, cette phase tend à disparaître. Cela de plus en plus souvent à mesure que nous nous enfonçons dans l'ère marchande moderne. Et une dernière phase où s'échange la feuille de soins, la prescription et la forme, entre guillemets, invisibilisée, et marchandisée du, entre guillemets, contre-don, sous la forme de la, entre guillemets, feuille maladie, aujourd'hui dématérialisée, au travers du terminal lecteur de cartes, entre guillemets, vital. Ce qui contribue à son invisibilisation. Ainsi fragmenté en différents intermédiaires, patient qui vient consulter, médecin, pharmacien, organismes sociaux, puis enfin soigné, se diffuse la relation thérapeutique. Et s'opère, ou est censé s'opérer, la magie de la guérison. Alors que dans les sociétés dites traditionnelles, le soin est inclusif, cadré par des rituels, dans nos sociétés, celui-ci est exclusif, cadré par l'autorité médicale. La médecine occidentale est hégémonique, toute forme de soin qui n'entre pas dans son cadre est disqualifiée. Par exemple, dans la médecine traditionnelle Kalawaya, peuple amérindien vivant en Bolivie, l'environnement dans lequel évolue le patient ou la patiente est pris en compte. La consultation se déroule à son domicile et celui-ci ou celle-ci participe activement aux soins, que ce soit par la recherche d'éléments du traitement ou par la réalisation de rituels. La personnalisation des traitements y est beaucoup plus poussée que dans le soin propre à la médecine occidentale, et la prévention y est plus présente. Ainsi, on peut aller voir le médecin pour demander des conseils pour ne pas tomber malade et consulter sans avoir à se sentir coupable. Par ailleurs, la pratique du prix libre permet d'adapter le contre-don individuellement. Bien sûr, la médecine de ces sociétés n'est pas exemple de forme d'autorité, même si celles-ci sont différentes. Dans la société Kalawaya existe un sentiment de communauté de savoir et de référence entre patients, patientes et guérisseurs ou guérisseuses qui a disparu dans nos sociétés avec la spécialisation des tâches et l'émergence de l'expertise. Là le mot important c'est communauté de savoir, le mot communauté. Bien sûr, le guérisseur exerce son savoir, dont découle une forme d'autorité, une expertise, mais celle-ci est moins déséquilibrée que dans nos sociétés. Cela d'autant plus que dans la société Kalawaya, le savoir est partagé, la connaissance des plantes s'acquiert dans le cadre familial, puis à l'école. Dans nos sociétés occidentales, le savoir est réservé à une sphère d'experts ou d'expertes confinés aux facultés de médecine et les médecins et les médecines entre guillemets traditionnelles ou dites parallèles, c'est-à-dire toutes les médecines qui sortent du cadre défini par la médecine occidentale hégémonique, sont déconsidérées, voire suspectes. Ainsi, alors il y a une note pour dire parler des médecines parallèles. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUD, donne dans son guide santé et dérives sectaires, disponible sur le site du gouvernement français, une définition des pratiques thérapeutiques considérées comme sectaires. On peut y lire entre autres Leur point commun est de ne pas être reconnus au plan scientifique par la médecine conventionnelle et donc de ne pas être enseignés au cours de la formation initiale des professionnels de santé. La dangerosité, sous-entendu de la dérive thérapeutique, tient essentiellement au fait que sa mise en œuvre peut amener le patient à une rupture avec son milieu de soins habituel, pouvant conduire à l'arrêt des traitements conventionnels. Donc ça c'est des extraits du guide Santé et dérives sectaires de la Miviludes. Je continue le texte. Dans nos sociétés occidentales supposées libres et ouvertes, existent par contre des paradoxes qu'il est important de démonter, entre guillemets, tant les conséquences peuvent aboutir à des formes d'oppression importantes. Nos sociétés sont excluantes, la différence est rejetée, et c'est sans doute de là que naissent ces paradoxes les plus violents. Nous sommes libres de vivre comme nous le voulons, mais nous nous exposons au rejet le plus total qui puisse être. Nous sommes coupables de nos différences. Cette logique s'étend naturellement au domaine du soin. Ainsi, toute forme de critique visant l'aide qui nous est apportée est assimilée à une volonté d'être malade. Contester le soin, c'est exposer aux autres que nous sommes si, entre guillemets, malades, que nous sommes en incapacité de le voir nous-mêmes. Le soin perverti, naissance d'un rapport thérapeutique, l'injonction d'être, entre guillemets, normal. Dans nos sociétés occidentales, dans lesquelles n'existe plus ce rapport au sacré et à la magie, la médecine moderne se veut rationnelle. Mais l'est-elle pour autant ? La médecine dépend des normes sociales. La souffrance et la, entre guillemets, maladie ont toujours existé, mais chaque époque a eu ses maladies. Par là, j'entends des constructions sociales du mal-être, des façons de se comporter, de construire ses rapports aux autres. La maladie est aussi une construction sociale, de par la façon dont sont jugés le normal et le pathologique, mais aussi dans le fait de la façon dont elle s'exprime socialement dans le rapport aux autres. Elle est aussi parfois même une conséquence de la façon dont est élaboré le dispositif de santé dans nos sociétés. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle et autour des années 1900, parallèlement au développement des théories psychanalytiques, l'homosexualité et l'hystérie font partie des préoccupations sanitaires en tant que troubles à l'ordre social en vigueur. La psychiatrie aliéniste va se pencher sur ces sujets et en faire son terrain de prédilection. L'homosexualité est pratiquée dans un certain cadre social durant l'Antiquité, notamment en Grèce, puis dans l'Empire romain. C'est seulement au Moyen-Âge qu'elle est considérée comme crime ou une hérésie. C'est très tardivement, principalement avec le développement de la psychanalyse, qu'elle entre dans le cadre des maladies. Le passage du crime à la maladie, participant à la médicalisation de la société moderne, laisse ici une étrange alternative. Soit être malade, soit être criminel. D'une certaine manière, refuser de s'admettre comme malade est ici traité comme un crime. Les nombreuses lois concernant la maladie mentale tombent malheureusement dans le même penchant, la criminalisation du refus de soins. L'hystérie, très ancienne elle aussi, décrite déjà dans l'Antiquité et théorisée par Hippocrate, fait aussi partie des sujets de prédilection des psychiatres aliénistes comme des psychanalystes. C'est en 1868 que Moritz Benedict pense les traumatismes et la sexualité infantile comme source de l'hystérie. Plus tard, Charcot classifiera les différentes formes d'hystérie, la réancrant dans le cadre des maladies. L'hystérie semble, autour des années 1900, répandue dans la bourgeoisie. Notons ainsi qu'à l'époque, les autres milieux n'intéressaient pas tant la société, du moment que la « entre guillemets force de travail » n'était pas en jeu. D'ailleurs, si certaines travailleuses et travailleurs y cédaient, un séjour thérapeutique ne pouvait leur faire que le plus grand bien. Alors là, on imagine que c'est au deuxième degré. Le cas de l'hystérie, comme plus encore celui de l'homosexualité, est assez intéressant puisqu'il montre l'importance des normes sociales dans la définition des maladies. Il montre aussi les rapports de domination en vogue dans la société ainsi que les formes qu'ils prennent. D'autre part, on voit aussi la façon dont les sciences médicales construisent leur pouvoir sur les individus déviants ou en souffrance, en élaborant une construction sociale des maladies. Autour des années 1960, l'hystérie semble miraculeusement devenue marginale, mais on peut s'étonner qu'une autre maladie, la schizophrénie, semble faire, au dire des psychiatres, des ravages au sein de la société. Bien que la schizophrénie apparaisse dans la littérature psychanalytique avec Bleuler en 1910, mais surtout dans ses écrits de 1950, d'une part, et que certaines de ses caractéristiques en soient attribuées aux observations de Pinel puis de Kraepelin en 1919, d'autre part, c'est surtout au cours des années 50 et 60 que la population de schizophrènes, entre guillemets, explose. Problèmes de dépistage et de connaissances scientifiques, problèmes psychologiques dus aux mutations de la société, ou bien problèmes de tolérance face à certaines différences. Ces questions prouvent la part sociale le contexte et les normes de la maladie dite mentale. Ainsi, autour des années 1900, les mœurs sociales se resserraient autour de la religion. La sexualité vivait une période de contrôle social née au XIXe siècle. Elle était codifiée et encadrée de façon restrictive et normative, et se devait discrète. Alors là, c'est là que dans le chapeau, cette phrase est un petit peu contestée par le collectif même qui a participé à la rédaction de ce texte. Dans les années 1960, l'appareil industriel a vécu une profonde mutation. Le travail s'est morcelé à l'extrême, dans un mouvement paroxystique débuté dans les années 1930 aux États-Unis. S'ajoute à cela l'injonction de consommer, puisque nous sommes devenus, entre guillemets, riches. D'un point de vue marxiste, on pourrait dire que, d'une façon schizophrène, nous devenons en partie, bien sûr, nos propres exploiteurs, entre guillemets. Alors là, évidemment, l'interprétation du terme schizophrène, ils sont plutôt à prendre dans le langage courant. Hein. Les journalistes, par exemple, emploient souvent ce terme pour décrire une situation de, par exemple, de grand écart, évoquant la double personnalité chez un auteur, en littérature, par exemple. Une situation paradoxale où on peut être deux personnes différentes et parfois contradictoires à la fois. Définition de la schizophrénie qui n'a que peut avoir avec celle qu'en firent Bleuler ou Kraepelin. Fin de la parenthèse. Alors, je disais donc, on pourrait dire que nous devenons en partie, bien sûr, nos propres exploiteurs. Peut-on, dès lors, ne pas voir un certain rapport entre certaines caractéristiques de ces maladies et certaines formes sociales d'oppression ? J'ajouterais qu'aujourd'hui, il semblerait que nous sommes plutôt susceptibles d'être paranoïaques ou éventuellement exposés à des formes paranoïaques de schizophrénie. Or, nous vivons dans une époque où domine la notion « société du risque ». Il est devenu dangereux de traverser la rue, de s'asseoir à une terrasse de café, de rechercher une sexualité épanouie. Et pour être un peu provocateur, je dirais que nous éviterons soigneusement de nous laisser embarquer trop loin dans ces réflexions, car mettre en lien celles-ci risquerait de nous éloigner de la question médicale et du soin en essayant de les lier à de futiles variantes sociales. D'ailleurs, si nous nous y laissions entraîner, la psychiatrie actuelle ne manquerait pas de souligner que cette vision découle de nos tendances paranoïaques et de nos perversions narcissiques. Peut-être cette tendance à chercher une cause sociale à la maladie découle-t-elle dans une vision médicale orthodoxe, des penchants paranoïaques du monde militant, dans son obsession à critiquer l'ordre établi ? Pour ma part, froisser l'orthodoxie médicale n'est pas un tabou. Et prétendre que la schizophrénie comme l'hystérie sont en grande part des constructions sociales et des outils de contrôle social, des réactions à des formes d'oppression, ne tracasse pas ma conscience. D'ailleurs, Marthe Arrighi, dans son texte « Naissance de la psychanalyse », souligne que, je cite, les épidémies hystériques de la fin du XIXe siècle étaient tellement identifiées à la psychanalyse en plein essor que, de fait, leurs symptômes étaient reconnus par la société. C'est alors que les symptômes évoluèrent et la conversion disparut. C'est pourquoi, lorsqu'ils réapparurent, l'hystérie fut classée comme psychose ou schizophrénie, ce que Freud réfuta, et personne ne parlait plus d'hystérie. Fin de citation. L'injonction d'être normal s'infiltre dans tous les domaines de la médecine, d'autant plus que celle-ci se double de l'injonction d'être performant ou performante, que ce soit professionnellement, socialement ou sexuellement. Les milieux militants ne sont par ailleurs pas entièrement exempts de ces formes d'injonction. Il va de soi que ne pas s'insérer dans ces cadres sociaux, ou plus encore de les refuser, crée de la souffrance psychique. Il va aussi de soi que la médecine est là pour nous aider, anxiolytiques, fortifiants, antidépresseurs, chirurgie esthétique. Dès lors, nous continuerons l'exposé en nous appuyant principalement, mais non exclusivement, sur le domaine de la psychiatrie. En effet, la notion de souffrance psychique cautionne une réponse médicale. Pourtant, la médecine peut-elle vraiment prétendre s'abstraire des cadres sociaux ? Le soin peut-il se concevoir hors d'une démarche volontaire ? S'il peut aider à s'en sortir, ne peut-il pas avoir l'effet inverse s'il est imposé ? La, entre guillemets, souffrance psychique est de l'ordre du médical, mais aussi du social et même de l'intime. Prétendre soigner, ou pire, rendre normal quelqu'un qui souffre psychiquement, c'est aussi en partie nier son vécu, son identité, lui imposer d'être quelqu'un ou quelqu'une qu'il ou elle n'est pas forcément. Dans ces conditions, le soin n'est-il pas paradoxalement source d'une souffrance psychique supplémentaire ? Alors, nous rappelons à nos auditeurs et nos auditrices que cette émission est la rediffusion d'une émission L'Entonnoir du 15 janvier 2020. Un article du Microrus, deuxième volume, intitulé « L'enfermement et la question de l'autorité médicale » de Pierre et Cassandra. Troisième partie, de l'expertise médicale à la dépossession de la santé. Le ou la médecin pose son diagnostic et prescrit les médicaments. C'est son rôle. Dans le cadre de la consultation, il peut y avoir un échange plus ou moins long sur la maladie, mais il peut aussi ne pas y en avoir. Vous avez telle maladie, vous devez prendre ça. Vous avez tel problème de santé, vous devez vous faire opérer. Les risques du traitement de la maladie ne sont pas toujours exposés lorsqu'ils ne sont pas carrément méconnus. Quelle que soit la spécialité médicale, la personne est, entre guillemets, dépossédée d'elle-même. Cette dépossession est particulièrement marquante dans les spécialités comme la gériatrie ou la psychiatrie, où les personnes sont particulièrement vulnérables. Au lieu de s'entretenir avec la personne âgée ou en souffrance psychique, le ou la médecin gériatre ou le ou la psychiatre s'adresse à ses proches. C'est plus facile. Et d'ailleurs, vu que la personne dont on s'occupe n'a sans doute plus toute sa raison, à quoi bon lui expliquer ? Bon, là encore, c'est du deuxième degré. De toute façon, le ou la médecin est experte en son domaine, donc il ou elle a forcément raison. Du coup, la personne est, entre guillemets, infantilisée. Elle doit suivre un traitement, entre guillemets, parce que c'est pour son bien et non parce qu'elle veut aller mieux. Ce qu'elle ressent, ce que vit la personne, n'entre plus en ligne de compte. Elle ne s'inscrit plus dans la société, mais à l'intérieur du soin. Elle cesse d'avoir une individualité propre et finit par se résumer à sa souffrance, sinon à sa maladie. Prenons l'exemple de la, entre guillemets, santé mentale, et plus précisément de l'hospitalisation, que la personne y ait recours ou soit sous contrainte, cas où son avis et son ressenti sont niés, ou de son propre gré, dans ce cas, elle se dépossède malgré toute sa santé, de son identité. Dans les deux cas, sa santé est, entre guillemets, aliénée, et est remise à l'expertise de l'institution médicale. Le ou la psychiatre, détenteur du savoir médical, connaît la maladie de ses patients, alors que celle-ci ou ceux-ci sont censés ne rien savoir. Ainsi, le savoir médical se transforme en pouvoir. Il exerce alors une aliénation supplémentaire sur la personne malade, la réduisant au produit de son diagnostic. Non seulement les personnes sont dépossédées de leur santé et de leur identité, mais en plus l'expertise, l'étiquette qu'on pose sur quelqu'un, lui laisse une marque à vie. L'individu est socialement disqualifié aux yeux de son entourage, comme au sein de la société. Une fois sortie de l'institution hospitalière, la personne reste malgré tout sous le contrôle de l'institution médico-sociale. Son parcours est encadré entre suivi médical et suivi social. La question du soin imposé dénaturation du médical en contrôle social. Pour beaucoup de personnes ayant connu une hospitalisation, l'institution psychiatrique devient un cadre de référence. Elle encadre désormais, dans les murs comme hors les murs, la vie de la personne, entre guillemets, en souffrance, qui devient dès lors un individu, entre guillemets, psychiatrisé. L'institution psychiatrique exerce son pouvoir de façon totalisante dans tous les aspects de la vie de celles et ceux qui en dépendent, travail souvent dévalorisé, ESAT, atelier entre guillemets protégé, lien social au rabais, CATTP, encadrement par des infirmiers, famille, contrôle des visites, isolement. Pour certaines personnes, le contrôle hospitalier s'exprime presque aussi fortement en dehors de l'institution qu'en dedans, via l'injonction de soins. Prescription de piqûres longue durée de neuroleptiques, obligation de pointage régulier avec le ou la psychiatre, mais aussi un ou une infirmière référent, activité libre dont le caractère est plus ou moins obligatoire, du fait qu'elle s'inscrive dans le parcours de soins. Le soin relève de la médecine hégémonique, et ses formes sont définies dans ce strict cadre hégémonique. Consultation, prescription médicamenteuse souvent lourde et si nécessaire, thérapie de choc et mesures de contention dans le cas de la psychiatrie. Loin d'être encouragé, chercher l'autonomie en essayant de trouver ses propres solutions par des, entre guillemets, médecines douces, tisane, plantes, médecine chinoise, acupuncture, etc., expose à un jugement dévalorisant de la part du corps médical. Les itinéraires thérapeutiques sont variés. Les patients faisant des allers-retours entre médecine alternative et médecine conventionnelle. Mais loin de coordonner diverses formes thérapeutiques, la médecine dominante impose son hégémonie en disqualifiant les efforts de la personne pour se soigner seule, au mieux niant, au pire condamnant, la pluralité de recours à différentes formes de soins. Au-delà de l'autonomisation de la personne face à la souffrance, à sa souffrance, la possibilité de se tourner vers des soins plus en accord avec sa propre vision de la santé et présentant moins d'effets secondaires que les soins médicamenteux de la médecine académique et de participer à préserver sa santé est niée. Souvent, la psychiatrie offre un, entre guillemets, soin technique, sans interroger sur les causes et ni même chercher à y remédier. Elle se résume à des soins médicamenteux doublés d'un contrôle social. L'administration de médicaments se voit parfois imposée. Le caractère librement consenti d'une hospitalisation peut aussi se voir remis en cause. Bruce Levin, donc sur internet, sur zinzinzine.net, un psychologue décrit l'hospitalisation psychiatrique comme un véritable lavage de cerveau médicalement assisté. Face aux nombreux, alors je cite, procédés de menaces, de chantage, d'endoctrinement, d'infantilisation et de culpabilisation, fin de citation, dont l'institution dispose légalement, et et quasiment sans recours, les patients vont jusqu'à simuler la maladie et sa guérison en disant que le traitement les a guéris parce que c'est le seul moyen qu'il leur reste d'échapper à l'enfer de la coercition. Les victimes de ce système ne sont pas des personnes humaines, mais des, entre guillemets, malades, appréciés non pas comme des criminels objectifs, mais comme des objets qui posent un souci de gestion. Fin de citation. La psychiatrie sort alors du domaine médical pour se cantonner à un rôle social répressif. La limite entre soins sous contrainte et soins librement consentis s'estompe parfois face aux exigences de contrôle social. Ainsi, en psychiatrie règne le chantage. Des personnes en placement volontaire sont menacées d'être placées de force si elles veulent sortir ou sont en désaccord avec les soins proposés. Dès lors, le soin devient une punition. Il se résume à un outil de contrôle. Cette injonction d'être bien dans la norme s'enracine dans notre éducation. Si on te punit, c'est pour ton bien, et se propage dans l'être même. Pour Maud Mannoni, dans « Le psychiatre s'en fout et la psychanalyse » aux éditions du Seuil, 1979, l'acte psychiatrique, dans une psychiatrie réduite à utiliser ses diagnostics uniquement dans la forme répressive, est souvent ressenti comme une forme de coercition éducative, rappelant les sanctions de l'enfance. Ainsi, une permission de sortie est assimilée à la limite à une sorte de levée de peine ou d'écrou, tant est présent dans l'esprit du malade le critère de bonne conduite. Ce rapport de domination, l'obligation de soins et d'enfermement, soins entre guillemets, l'obligation de soins et l'enfermement font que le soin devient principalement un outil de contrôle social. Dès lors, le soin réduit à une punition fausse le rapport thérapeutique duquel l'individu cherche à s'échapper en se conformant aux attentes institutionnelles, jouant les comportements qu'on attend de lui. Que reste-t-il du soin dans ce jeu dominant-dominé ? Comment prétendre que le soin imposé puisse jouer positivement son rôle de rendre la personne en bonne santé si celle-ci, fuyant un rapport d'oppression, cache son mal-être, sa maladie ? La question de l'enfermement. Perversion de la notion de risque pour soi ou pour autrui. Alors que dans certaines sociétés traditionnelles, le malade est pris en charge collectivement, que le ou la folle et fou est intégré dans la société occidentale capitaliste, il existe une peur de la différence, de s'occuper des autres. Ainsi, celles et ceux qui sont trop différents sont rejetés. S'occuper de ces personnes est une charge ingrate. L'enfermement est ainsi pour la société une façon de se débarrasser des personnes qui gênent par leur différence, de cacher cette différence qui fait peur. Souvent, se retrouver enfermé, c'est être privé de liberté pour notre bien ou pour celui de la société. Dans le cas de l'enfermement thérapeutique, la notion de péril imminent est prétexte à quasi toute décision arbitraire. Celles et ceux qui vivent l'enfermement contre leur volonté sont privés de leurs droits, de leur humanité. Donc, les soins leur sont imposés, parfois violemment. Dans l'institution psychiatrique, celles et ceux qui sont enfermés contre leur gré portent le pyjama, sont parfois attachés, mis à l'isolement. Les soins leur sont imposés, leur ressenti sur ces soins nié, puisque de toute façon, ces personnes ne sont pas capables de savoir ce qui est bien pour elles. Pire, elles souhaitent se faire du mal. La réponse institutionnelle est le traitement à vie. Elle fait disparaître le sujet social. Ainsi, l'individu psychiatrisé perd sa dimension humaine et devient l'objet de soins constants, soins qui lui sont parfois prodigués contre sa volonté. Peut-on dès lors vraiment s'étonner du nombre de suicides au sein de l'institution psychiatrique ? Cette institutionnalisation de la personne en souffrance psychique encadre la personne en souffrance aussi bien dans l'hôpital que hors de celui-ci. L'injection de neuroleptiques déléguée à l'infirmière ou à l'infirmier Le pointage en centre médico-psychologique et l'usage des forces de l'ordre pour une nouvelle hospitalisation sous contrainte si la personne malade ne vient pas régulièrement aux pointages qui lui sont assignés, ces exemples illustrent de manière frappante l'imposant contrôle social mis en place pour, entre guillemets, recadrer la personne qui sort trop des normes sociales. On peut noter que les individus qui sont peu enclins ou enclines aux rapports autoritaires se retrouvent plus souvent hospitalisés que les autres et que l'hospitalisation est, dans leur cas, encore plus souvent sous contrainte, à moins de savoir dissimuler son ressenti, ses opinions. Bruce Levin souligne que la sélection et la socialisation des professionnels de la santé mentale tend à écarter de nombreux et nombreuses anti-autoritaires. Je cite Bruce Levin. Ayant navigué dans les eaux de l'éducation supérieure pendant une décennie de ma vie, je sais que les diplômes et les certificats sont principalement des badges de conformité. Celles et ceux qui ont eu une scolarité prolongée ont vécu pendant des années dans un monde où l'on se conforme systématiquement aux demandes des autorités. Ainsi, pour de nombreux et nombreuses doctorants ou doctorantes, les gens qui ne sont pas comme eux ou elles, qui rejettent cette conformité de comportement et d'attention, leur semble venir d'un autre monde, un monde diagnosticable. Je suis frappé de voir, un, à quel point les personnes diagnostiquées sont essentiellement des anti-autoritaires, et deux, à quel point ces professionnels qui les ont diagnostiqués ne le sont pas. Sixième et dernier petit chapitre de ce long texte, intitulé « L'enfermement et la question de l'autorité médicale » par Pierre et Cassandra, réalisé en janvier 2016. Dernier titre donc, « Questionnement politique sur le soin ». Nous avons vu quelques-uns des problèmes de la médecine occidentale moderne découlant de sa construction sociale autoritaire. Celle-ci, érigée en experte, non seulement des problèmes médicaux, mais aussi des problèmes sociaux, exerce une fonction normative sur les personnes composant la société. Cette fonction normative est encore plus vraie dans le cadre de la psychiatrie. Celle-ci a le pouvoir d'extraire de la société les personnes qui n'entrent pas dans les normes. Dès lors, nous devons nous poser la question de savoir de quelle façon la médecine pourrait être plus accessible à tous et être plus incluante en faisant participer la personne en souffrance à sa propre santé. Nous devons aussi nous questionner sur ce que nous pouvons apporter comme sur les formes de domination que nous reproduisons dans nos vies militantes. En effet, le milieu libertaire est lui aussi traversé par des rapports de domination et d'exclusion. Marginalisation des questions touchant aux soins, exigence d'efficacité ou intolérance face à celles et ceux qui sont différents ou en souffrance. Ces rapports de domination se jouent dans la façon de parler, d'écrire, de monopoliser le savoir, d'imposer son savoir universitaire, d'adopter une posture d'expert ou d'experte, d'user d'un discours rhétorique, de disqualifier l'autre à travers des accusations stéréotypées. Se pose aussi la question de l'aide, qui peut être stigmatisante, ou reproduire les rapports de domination présents dans la médecine dominante. L'élaboration de dispositifs alternatifs visant à restaurer l'autonomie de la personne malade est donc très délicate et nécessite une grande écoute de la personne souffrante, écoute dont l'absence est au centre des rapports de domination présent dans la médecine occidentale moderne. L'élaboration de tels dispositifs nécessite aussi de s'extraire des rôles soignant-soigné sous peine de reproduire une forme de domination. Se départir de l'obligation de soins de la médecine moderne n'est pas chose aisée. Ainsi, la médecine pensée sous une forme communautaire ou libertaire pourra-t-elle vraiment se départir d'un formatage lié aux normes du groupe, normes restant instituées à travers les rapports de domination? En effet, des rapports de domination qui, s'ils ne font plus partie d'un ordre social dominant, peuvent tout autant s'inscrire dans les courants d'idées, le maniement du langage et de ses idées, ou encore dans l'inversement de rapports de domination. Tout groupe a des normes, et celles-ci se composent autant d'élaborations collectives que d'arbitraires. Tout groupe se compose aussi d'une identité mêlée d'expressions minoritaires. Il est possible de poser la question suivante: comment dépasser le regard normatif de la médecine, mais aussi celui de la société? Mais il serait pertinent d'ajouter: comment dépasser le regard normatif qui s'institue dans tout groupe humain et s'étend à travers les individus composant ce groupe? Au-delà des groupes humains, la constitution d'une autre médecine ou d'une autre société pose la question des conflits, des divergences, divergences qui peuvent, comme ici, advenir à travers l'élaboration d'un texte ou l'élaboration d'un travail collectif, et de leur dépassement, si celui-ci est possible, de la place laissée à celles et ceux qui se trouvent marginalisés par une façon de penser différente. C'est par la résolution de ces questions, de la place de l'autre dans le milieu militant, de l'acceptation de ses particularités et de ses faiblesses, et de son inclusion dans le groupe, que nous pourrons construire une critique réellement efficace des rapports de domination et d'exclusion au sein de la médecine occidentale. Voilà, je me permets d'exprimer une position personnelle sur la psychiatrie, dit l'auteur, celle-ci étant établie comme la médecine de la pensée, il est logique qu'elle ait un fort caractère normatif. Dès lors, peut-on vraiment la changer par une approche libertaire ou communautariste? Pour ma part, je pense indépassable cette contradiction et que seule la liberté de chaque individu face à sa santé, qu'elle soit psychique ou physique, peut donner une place à cette santé. Je refuse aussi le concept d'hygiène sociale, que celui-ci soit utilisé par les médecins hygiénistes ou que celui-ci vienne de certains écrits libertaires. Fin de l'article, et c'était donc l'article L'enfermement et la question de l'autorité médicale par Pierre et Cassandra. Pierre étant l'auteur initial et Cassandra le groupe qui a apporté ses idées à ce texte devenu alors collectif. Un texte de janvier 2016, rédigé à Caen. Microrus, une revue qui n'existe plus, mais où l'on pouvait y lire des textes on ne peut plus critiques de la psychiatrie et du pouvoir médical et du monde qui va avec. Ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. La semaine prochaine, nous inviterons Jean-Manuel Trémont, qui a donc écrit et publié ce livre Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl. À la semaine prochaine.